Il y a des gens qui sont là, on n'a rien annoncé. On n'a rien préparé.
Hello mes pupilipu!
Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 13, épisode 13. C'est la journée de l'éclipse totale, la première depuis 100 ans ou quelque chose du genre. Donc, c'est ça. Alors, on est là pour vous parler des ratings sur BGG et sur plein d'autres affaires. Alors, comme à l'habitude, je suis en compagnie de mes deux lutins de foire favoris, Vincent Beaulac et Pierre Poisson-Marquis, qui nous fait son regard assassin. Et assassin. Et je suis Simon, donc bonsoir à tous, bonsoir messieurs, vous êtes en forme?
Salut mon petit turlu bierlu, ça va bien?
Yes, 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 très bien, très bien, content d'être là. Avez-vous regardé l'éclipse?
Ben non, sinon on serait pas là, on serait aveugle.
Non, l'éclipse, tu peux la regarder, quand c'est total, tu la regardes, là.
Oui, mais tu sais, avant, tu peux pas.
Non, c'est ça qui est fou, c'est que si t'as pas les lunettes spéciales, tu vas regarder le soleil une minute de trop et avant et après l'éclipse, puis réellement ta rétine va être brûlée. En fait, tu te rends compte, ça a juste besoin d'un tout petit quartier de soleil pour que on voit le soleil, hein. Fait que c'est quand même assez.
Imagines-tu les optométristes quand même vont faire du cash demain?
je me disais exactement la même chose. Là. Il y aura une vague de rétine brûlée, c'est sûr. En plus de tous les accidents
le
de voiture.
Rétine brûlée challenge.
T'as-tu regardé l'éclipse 8 minutes sans cligner des yeux? Ah oui, on l'a raté par exemple le challenge. Fuck, avoir su, je l'aurais fait. Okay.
Pour notre TikTok.
Ouais, pour notre TikTok, exact. parfait, donc ben, j'espère que vous l'avez regardé quand même et vous avez profité de ce spectacle assez unique en son genre.
C'est sympathique. Toi Pierre, tu l'as-tu regardé ou tu le regardes comme tu nous regardes présentement, avec très peu d'intérêt?
Non, je l'ai regardé, je l'ai... C'est quand même assez... Je pourrais décrire mon expérience comme stressante et époustouflante, parce que... J'étais sur la route en attendant que la lune cache le soleil. Puis je brûlais de Montréal à Granby. Donc une heure de route qui s'est transformée en 2h30 de route.
Avec le trafic?
Oui! Évidemment.
Les gens étaient fous sur la route, ça faisait pas de sens.
C'était complètement démentiel. C'était comme si on était à la Mecque pour...
Les gens s'arrêtaient sur le bord de la route, là, puis il y avait plus de règles qui tenaient, là.
Il y avait encore des règles, mais c'était tellement facile d'avoir un bouchon de circulation que ça en devenait ridicule. Mais j'étais arrivé à destination et la lune venait tout juste de cacher le soleil. Donc, je suis débarqué, j'ai eu le temps de la voir 4 secondes. Pas ça, ben, André.
Et t'es allé dans ton sous-sol, puis
dans ton den.
Dans ton cercueil de vampire.
C'est vrai, ça, ouais. Je me sentais pas mal à mon aise pendant la minute d'éclipse qu'il y a eu, par contre. Là, c'était intéressant, le côté sombre qui arrive comme ça, sans crier garde, et puis qui réfléchit la température de 10 degrés à peu près. Hein. Peut-être pas 10 degrés.
Mais c'était notable en fait, c'est ça qui était fou. Puis d'ailleurs, tu sais, toi t'es à Granby, fait que j'en profite pour en glisser un petit mot, qu'il y avait des spécialistes sur place partout à travers le zoo pour observer le comportement des animaux durant l'éclipse.
Ah!
Fait que ça, j'ai pas vu les résultats, bien entendu, ça se faisait durant l'éclipse, mais c'est ça. Fait que...
C'était genre du monde à leur maîtrise puis qui savait pas trop quoi faire comme sujet.
Ouais, projet de l'effet des éclipses sur les girafes emprisonnées dans des zoos. Genre.
C'est des entrevues qualitatives, ils vont faire des interviews après avec les girafes.
Comment vous vous sentiez quand c'est devenu sombre vraiment vite, puis là vous saviez pas, puis... donc, lançons-nous maintenant podcast de jeu, mais je vais quand même. On commence par un peu d'actualité ludique. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on a un sujet qui est peut-être un petit peu plus petit, ou en tout cas, on ne sait pas trop où on va aller avec ça. Donc, on a décidé de faire un peu d'actualité ludique en début de parcours, et je vais me lancer avant avec quelque chose qui n'est pas de l'actualité ludique, en fait, mais qui fait un bel écho à ce qu'on a parlé juste avant, qui est un livre que je suis en train de lire, Les girafes en feu de Gabriel Allaire. Livre québécois, en fait, c'est sorti l'année passée. Ça se passe d'ailleurs à Grimbé. La ville de Grimbé est renversée sans dessous-dessous parce que Olaf, un gorille acteur là, cinématographique qui a été à Hollywood avec toutes les plus grandes vedettes, s'en vient être résident du zoo de Grimbé, s'en vient terminer sa vie hein, au zoo de Grimbé. Donc, et là, ça amène une vague de vedettes qui arrivent à Grimbé et tout ça. On suit des tenanciers de motels qui sont comme pris dans cette espèce de vague de vedettariat avec des révoltes, des révolutionnaires adolescents là, qui se révoltent un peu contre tout ça. Très drôle, très humoristique. C'est le deuxième livre de Gabriel Allard, Les girafes en feu. Et à date, je suis rendu, il me reste comme 50 pages à lire et je suis agréablement surpris. Ça se dévore tout seul. Donc, s'il y a des gens qui aiment la lecture, je vous le recommande.
Et quoi, Thomas Dagenet veut faire une réimplémentation en board game, c'est
ça? En board game, ah oui, exactement. On prépare un board game. En fait, je me dis, ça ferait une esti de bonne série télé. Tu sais, comme les personnages sont colorés comme pour faire une série télé, comme les bonnes séries télé québécoises. Il y a ce côté-là là-dedans qui est vraiment... c'est très absurde, humoristique, mais en même temps... très sombre et profond sur la nature de l'humain, mais un peu dans le pathétisme humain, si on veut. Hein, donc, c'est fait que c'est très drôle et en même temps, ça fait réfléchir. Donc, les girafes en feu.
Mm.
Sinon, messieurs, à quoi avez-vous joué ces temps-ci?
Ben, écoute, je peux... Vas-y donc, Pierre.
À quoi j'ai joué ces temps-ci?
Ben,
je vais avouer que j'ai pas vraiment eu le temps de jouer beaucoup ces temps-ci. C'est quand même assez peu connu.
C'est choquant!
Eh, voyons donc!
On le sait, Pierre, ouais. Qu'est-ce qu'il fait de ses nuits et de ses jours en ce moment? Il organise les jabs.
Ouais, mais parle-nous donc un des jeux aux jabs que t'as hâte d'essayer, mettons.
Ouais. C'est vrai que je pourrais peut-être faire ça. Un jeu qui s'appelle...
T'es trop préparé, Pierre, pour nous, là. T'es trop prêt.
Oui, exactement. Oui, c'est ça.
Il vient vraiment de se réveiller de son cercueil.
Ouais, le gars, depuis l'éclipse, il a pas bougé. Il est là, son sous-sol, il attend.
Ouais, c'est ça. Mon Dieu, de quoi je pourrais parler?
Oui, Pierre, qui là, raconte-nous quelque chose.
Magical Friends and How to Summon Them est un jeu qui m'intrigue quand même assez bien.
Ouais.
C'est un jeu... un jeu que je pourrais décrire comme le Parcheesi qui rencontre Small World ou le jeu du Toc qui rencontre Small World. C'est un jeu autrichien et c'est un jeu autrichien qui a été kickstarté mais qui a été assez discret dans son Kickstarter. C'est beaucoup plus le public européen que le public nord-américain qui en a pris conscience et c'est un jeu d'une méchanceté sans borne. Et là, j'ai entendu « toc » du côté de chez Vincent. Je sais pas si c'est en dessous de sa table que ça fait ça. c'est un jeu, en fait, de méchanceté sans borne. Je le dis parce que s'il y en a qui vont voir l'image de ce jeu-là, ils vont peut-être être dubitatifs. Et
ça a l'air tout gentil, là, t'sais, à part que c'est des ados qui summonent des démons. Là, mais ça a l'air comme ça a un côté un peu enfantin, presque, là.
Ouais, on dirait presque même que c'est une franchise d'Harry Potter qui était transformée en jeu, et pourtant, ça ne l'est pas, parce que c'est un jeu où vous êtes des sorciers un peu dans le style d'Harry Potter, effectivement, mais vous êtes dans une taverne, et vous avez la capacité d'invoquer des monstres pour les appeler, puis venez faire finalement une beuverie dans la taverne avec vos amis monstres. L'affaire, par contre, c'est que les monstres vont pas arriver... tout feu, tout flamme dans la taverne, simplement en claquant les doigts, vous devez les faire apparaître au loin. Vous n'êtes pas assez fort dans votre magie pour les téléporter directement dans la taverne. Alors, ils doivent faire le parcours pour se rendre jusqu'à votre taverne. Et c'est là que ça devient méchant, parce que chaque monstre ou chaque créature va avoir sa petite habilité spéciale. Et chaque créature aussi va se déplacer d'un certain nombre de cases et ils peuvent se déplacer aussi pendant les tours des autres joueurs. Et ces créatures-là aussi vont avoir des capacités de destruction relativement fréquemment. Donc ça peut arriver que quelqu'un amène sa créature, il est à deux pas d'atteindre la taverne, puis là, oups, un autre joueur amène une autre créature puis il vient tuer la créature qui était là. C'est le cas de l'orque, entre autres. L'orque élimine les créatures sur lesquelles il arrive. Donc, ça a l'air amusant et ça n'a pas l'air facile non plus. Ça a surtout l'air méchant. Et puis, ben, c'est très bien, d'après moi.
Ça vaut-tu 80€ pour la commande en ligne? Ou 125€ avec le set acrylique?
Attends, juste le jab qu'on le joue, après ça, tu le commanderas.
T'as-tu vraiment besoin de me demander ça, Vincent, parce que tu sais bien que c'est pas un détail qui t'arrête. Ça, c'est juste pour faire semblant que t'as un filtre qui t'arrête que tu me demandes ça.
Non, attends un peu. Moi, j'ai pris une décision la semaine passée.
Non!
Ça se peut que ça change dans une semaine. Mais là, j'ai décidé que j'allais jouer un peu plus à mes jeux.
Oh, après le FOMO, après l'épisode sur le FOMO, il change son fusil d'épaule.
C'est pour ça que ton tableau blanc est en vue brouillée dans nos caméras. C'est parce que t'as trop
honte. Non, parce que mon tableau blanc n'est pas à jour. Là, je vais mettre un mur avec la peinture à craie. Là, je vais vraiment pouvoir toutes les lister. Vous allez voir, il va être encore plus gros. Mais sur ça, mais justement, écoute, ça va faire allusion à mon actualité ludique. Shame on me, j'ai recommencé à jouer pas mal sur Board Game Arena, un peu par obligation, hein, par obligation.
Par
parce
obligation.
Que comme... Ben non, mais j'ai besoin de ma droge de jeux de société, puis ben j'ai des enfants, puis ça m'empêche de me droguer. Fait que là, je commence à jouer sur BGA, et un des jeux que j'ai commencé à jouer là, de façon un peu à reculons, c'est Pax Renaissance, la deuxième édition, qui est en format bêta sur BGA. Et ma foi, je suis vraiment, vraiment étonné. Je pense que ça fait une dizaine, douzaine de parties, puis je ne suis même pas encore certain de comprendre toutes les règles, simplement parce que c'est dense. C'est Monsieur Philippe Clown, évidemment, donc Philippe Clown, reconnu pour... Oui, reconnu pour ces jeux où est-ce que un pion veut dire mille affaires historiques. Et j'aime énormément ce jeu-là jusqu'à maintenant. J'ai gagné deux parties et j'en suis très, très fier. Puis je conçois peut-être convertir une bonne partie de mes amis.
Mais là, tu m'as donné le goût, là, parce que moi, ça fait longtemps que je veux jouer à ce jeu-là.
Mais c'est parce que ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que les parties durent vraiment 60 minutes, même peut-être en bas.
À deux joueurs?
Comment?
À deux joueurs ou toi tu joues à deux?
À deux, trois joueurs, okay. À trois joueurs même. À quatre, j'éviterais peut-être de jouer à ce jeu-là simplement parce que ça peut devenir très chaotique. Mais à deux, trois joueurs, ça roule vraiment bien. En dedans de 60 minutes, tu finis une partie. Mais c'est qu'il y a tellement, tellement d'espace pour différentes situations qu'au final, bon ben, tu sais, t'as pas le choix d'en jouer une autre, puis après 10-12 games, là, tu commences à bien maîtriser les règles, puis là, à un moment donné, tu commences à vraiment voir un peu le voile qui se lève.
Tu m'as déjà convaincu, là.
OK.
Ouais, ouais, moi, ben, je suis down là, à 100%, là.
C'est un rendez-vous sur BGA.
Yes, yes. Ben, parle-nous-en juste un petit peu plus, peut-être, juste pour nous dire un peu c'est quoi le contexte du jeu, là, pour ceux qui le connaîtraient pas.
Dans le fond, j'irai pas dans le détail des PAX nécessairement. Je vais aller plus vraiment avec PAX Renaissance. C'est un jeu qui nous lance un peu dans la Renaissance dans un espèce de conflit européen avec les Ottomans, l'Empire, les empires un peu occidentaux versus les empires orientaux, je vais dire comme ça. Et l'idée derrière le jeu, c'est que nous, on est des banquiers et notre but, c'est en fait d'influencer ces différents empires-là puis de faire agrandir leur territoire ou justement de les faire renverser au moment opportun. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que c'est un jeu où est-ce que tu as une rivière de cartes et tu vas acheter des cartes puis ensuite les jouer. Lorsque tu les joues, tu as une habileté spéciale que tu peux décider d'activer sur cette carte-là. Et sinon, bon ben, quand tu l'as joué, elle est devant toi, ça te crée un tableau de cartes et à un moment donné, tu peux décider d'activer ces cartes-là qui sont devant toi. Sauf que les cartes sont divisées en deux paquets, soit le paquet occidental et le paquet oriental. Donc, quand tu actives soit toutes tes cartes de l'Occident, soit toutes tes cartes de l'Orient. Et ben ces cartes-là te permettent, par exemple, d'aller faire une campagne contre un autre empire. Ça te permet d'aller taxer des concessions qui sont entre différents empires. Donc ça peut être les autres joueurs. Ça te permet d'aller aussi faire une répression sur certaines pièces, donc les retirer du jeu, ou en fait, peut-être même d'aller marier en fait un roi quelconque. T'as vraiment, vraiment, écoute, t'as, c'est vraiment l'Europe médiévale Renaissance en 60 minutes, condensé dans un paquet d'à peu près une cinquantaine de cartes. Merci, bonsoir. Tu joues avec ça, puis advienne que pourra. C'est vraiment épatant qu'est-ce que Phil et Clune est capable de faire là, avec très peu de matériel comme ça. Puis c'est un jeu aussi qui va pas nécessairement dans la polémique en tant que telle, comme il a pu faire peut-être avec Pax et Anticipation. Mais je m'écarte. Ça pour dire que...
Ben c'est bon. Très peu de matériel, mais une chier de règles, c'est ça. Hein?
Exact. Ah, exact. Ouais. Mais en fait, puis c'est que... Puis ça, encore une fois, c'est intéressant, c'est que Phil et Clune est apte à pouvoir créer une règle. Et dans la circonstance dans laquelle cette règle-là s'applique, peut arriver une pléthore de différentes situations. Donc, quand tu es dans une... Il y a une carte qui peut être hyper puissante pendant un certain moment dans une situation, dans une game précise, versus une autre game qui va arriver puis elle n'a aucun effet, puis en fait, tu es juste dans ton chemin puis tu veux t'en débarrasser le plus vite possible.
Très cool, et j'en profite pour parler un peu de BGA. Moi, j'ai raté l'épisode sur Board Game Arena. Là. Je sais pas s'il y a eu vraiment lieu, là, mais...
Pas vraiment, on n'a pas eu beaucoup de discussions sur Board Game Arena, plus les jeux avec application. Là.
Parce que les gens aimeront peut-être pas ça, mais selon moi, c'est la plus grande révolution dans le monde du jeu de société depuis Kickstarter. Pour le meilleur et pour le pire, là, mais c'est ça. Fait que... C'est quelque chose qu'on n'a pas fini de voir grandir, puis que là, dans les... Tu sais, c'est là depuis longtemps, là, Board Game Arena, ça fait 10 ans que ça existe, là, peut-être plus, là. Mais là, ça l'a vraiment éclaté dans les dernières années. Puis c'est ça, maintenant, c'est rendu un outil de promotion, mais c'est rendu aussi un endroit où les gens jouent pour de vrai, contrairement à, tu sais, Tabletop Simulator, où le nombre de joueurs est extrêmement marginal, là, sur Tabletop Simulator. Par rapport à quelque chose comme Board Game Arena, où là, c'est comme le jeu de société, mais vraiment en jeu vidéo, parce que accompagné par l'ordi. Là, tu sais.
Mm-hmm. Oui. Puis il y a beaucoup de polémiques aussi par rapport à certains jeux qui... je pense notamment à Pax Pamir que j'ai essayé puis que je ne rejouerai pas sur tes bords.
L'intégration n'est pas bien faite? Ou...
C'est pas l'intégration, c'est plus la nature du jeu en tant que tel. Je pense qu'il y a certains jeux qui s'y apprêtent bien, des jeux plus solitaires où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement une interaction nécessairement communicative qui est nécessaire. Mais Pax Pamir, c'est un jeu où est-ce que justement la communication, c'est un des éléments clés pour moi. Puis d'écrire, puis de m'ostiner sur un chat à moitié fait avec une interface plus ou moins. C'est ça exactement.
Ben, ça me fait penser, il y a deux jeux dans cette optique-là. T'sais, un de mes jeux favoris, c'est Décrypto. Mais malheureusement, Décrypto sur BGA, c'est raté. Là, c'est terrible. Puis même qu'il y a... Tu peux vraiment facilement tricher. Tu sais, comme, OK, oui, c'est peut-être pas si le fun de tricher, mais en même temps, tu sais, le système te permet de tricher vraiment facilement. Tu sais, fait que c'est un peu bizarre. Que ça...
Attends un peu, t'es en train de me dire, OK, Décrypto a été édité sur. OK, c'est terrible, ça. C'est...
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, un autre jeu que j'apprécie beaucoup, mais que sur BGA, je suis comme, ah, c'est pas parfait, c'est Skyteam. Fait que, tu sais, c'est des jeux qui se prête plus ou moins là, à ce médium-là. Mais bon, une étape à la fois. Quelques actualités ludiques de mon côté. J'y vais parce que je suis motivé puis je sais pas si l'occasion va se représenter à nouveau. Même si au final, on est déjà rendu plus qu'à la moitié de l'épisode sans avoir touché le sujet. Mais bon, on parle de jeu, hein, fait qu'on s'excite. J'ai 4 petits jeux que j'ai joué beaucoup ces derniers temps, dont un que j'ai joué vraiment beaucoup. Je vais finir par celui-là. En fait, je vais juste en parler de 3. Désolé, je vais en parler de 3. J'en élimine un du lot, je le garde pour une autre fois. J'ai joué beaucoup à Solstice et à Pixies. Solstice de Bruno Catala, Corentin, Lebras et Pixies de Bombix, en fait, là, qui est l'espèce de suite spirituelle de Sea Salt and Paper. Et étrangement, ces deux jeux sont pratiquement le même jeu. Quand tu y penses, là, c'est comme tu draves des cartes pour les mettre dans un emplacement prédéterminé, sur une grille. Là. Fait que Pixie, t'as des cartes de 1 à 9. Solstice, t'as une espèce de paysage complet que tu viens remplir. Là. Fait que étrangement, c'est essentiellement le même jeu avec, bien entendu, toutes leurs twists, mais des petits jeux de placement intelligents, assez rapides. Donc, j'ai bien aimé ces deux jeux-là. Je sais pas si ça va passer l'épreuve du temps. Là. Je sais pas si vous avez joué ces deux jeux, un de ces jeux.
Je pense que j'ai joué à Pixies, mais seulement sur Internet, seulement en ligne, puis c'était comme très, c'est très vague là. Ouais.
Pierre, de ton côté?
J'ai pas essayé, je les ai vus passer. Je sais effectivement qu'ils sont la tendance parce que ils répondent vraiment à la tendance la plus actuelle des jeux de société, le tableau building, on appelle. Oui, effectivement, ça ne m'étonne pas. Que ce jeu-là t'es accroché un peu.
Et mon vrai coup de cœur du moment, parce que j'ai joué à ces jeux-là, j'ai joué peut-être, je sais pas, 5, 6, 7 parties de chacun d'eux, mais l'autre jeu, je le joue sur Board Game Arena, justement. Je l'ai pas en physique, le jeu que je vais vous parler là. J'ai joué au moins 50 parties en un mois. C'est le jeu Captain Flip. Captain oui. Flip, qui est le jeu, le premier jeu de Playpunk, la maison d'édition de Antoine Boza. Qui est un jeu, je crois, espagnol à la base, des auteurs espagnols, je crois. Paolo Mori.
Des auteurs italiens.
Italiens, ok, bon, excusez-moi. Et Remo Conzadori. Donc, je ne connaissais pas aucun de ces auteurs, mais ce jeu, réellement, un gros coup de cœur pour moi. Ça dure. À deux, ça dure 10 minutes, à peine une partie. Et on est vraiment... En fait, ça rappelle un peu le littoral même qui vient de sortir chez Randolph d'une certaine façon. C'est qu'à ton tour, tu piges une tuile, tu décides est-ce que tu la joues du côté que tu as pigé ou tu la flippes pour la jouer de l'autre côté. Il y a comme 10 tuiles en tout, peut-être moins, il y en a 8, je pense. Puis dans le fond, recto verso, c'est toujours différent, le hasard. Et tu construis un bateau de pirate. En fait, tu construis ton équipage de pirate avec ça. Mais en gros, c'est, bon, le cuisinier, s'il est à côté d'un autre cuisinier, il fait des points. OK, le perroquet, il émule le pouvoir d'un autre. Tu sais, t'as comme chaque face a sa petite twist. Mais c'est juste tellement rapide, tellement engageant, tellement bien fait. Tu sais, j'aime pas utiliser ce mot en anglais parce que j'arrive pas à le traduire bien, mais c'est snappy. C'est snappy, tu piges ta tuile, ta joue, il se passe quelque chose à chaque fois. À chaque fois, tu as un choix qui est relativement déchirant. Tu as toujours l'espèce de petit pari de « je tourne-tu ma tuile, je tourne pas ma tuile ». Et en même temps, il y a kind of il y a différents plateaux de jeu. Là. Et il y a des plateaux de jeu où tu as beaucoup d'interactions avec les autres joueurs. Il y en a où tu as zéro interaction avec les autres joueurs. Fait que c'est comme il y a différentes façons de jouer le jeu aussi. Vraiment, je vous le recommande fortement, Captain Flip. Est-ce que ça va passer l'épreuve du temps? Je le sais pas, mais ça donne envie de faire des jeux. Quand tu joues à ce jeu-là, tu as le goût de faire un jeu.
Oui.
On avait parlé, en fait, à une autre émission qu'on avait faite, nous trois, oui. J'avais parlé de Captain Flip.
Ouais, mais j'avais pas joué à ce moment-là, je l'avais vu à Cannes un peu, puis là, après ça, quand je suis revenu, j'allais jouer sur BGA, et là, toi, Vincent, tu l'as joué aussi là, j'imagine, ou?
Exact, j'ai joué sur BGA, je trouve que ça a l'air très... ça avait l'air sympathique, là, écoute, j'ai pas joué plus, j'ai juste joué une partie, puis c'était un peu... un entre-deux, je te dis. Ben ouais, puis surtout aussi, c'est ça, c'est que, comme je te dis, là, je reviens avec Pax Renaissance, mais c'est comme tellement comme drainant au niveau cognitif que, honnêtement, c'est ça, je suis parti avec Captain Flip, j'ai lu les règles, j'ai fait comme, bon, regarde, comme ça qu'on joue parfait, je l'essaye, elle va vite. Mais oui, définitivement, je pense que c'est un jeu qui peut être vraiment intéressant là, pour, tu sais, au niveau familial, puis au niveau tout ça, là, tu sais, on sort ça très rapide, très efficace. C'était pas pour les autres plateaux de jeu. Pour les autres plateaux de jeu, nous, on a joué avec le plateau, en fait, de bateaux, de pirates.
Principal, là, ouais, le bateau. Exact. Ouais, c'est un bon plateau, effectivement. Après ça, les autres, tu sais, ils mettent, mettons, des courses. Le premier qui complète une colonne va faire plus de points que les autres. Fait que là, tu vas comme jouer, essayer de compléter des colonnes plus vite. Fait qu'il y a des petites particularités sur chacun des autres plateaux, là.
Ouais. Hey, je sais pas si t'as fini.
J'ai terminé.
OK. Écoute, 5 minutes. C'est un peu... c'est cool.
Est-ce que c'est trop court? Parce qu'on peut parler d'autres choses puis garder ce sujet pour la prochaine fois, mais toi, tu seras pas là la prochaine fois. Fait que j'aurais aimé que tu puisses peut-être nous exposer ton propos puis on va essayer de t'écouter. Pas trop, y aura pas trop de gros débats, mais je pense que ton propos est quand même intéressant puis 6 minutes devraient être bon pour l'exprimer. Là,
et au pire, on en prendra 10. Mettons. Okay. OK, je commence parce que là, le timer a commencé. En gros, souvent, on va beaucoup critiquer, puis même nous autres, hors caméra, on en a beaucoup parlé, là, un peu de façon très, très vociférante, je vais dire.
Virulente.
Virulente, virulente, exactement. Où est-ce que, bon, le rating sur BGG, c'est de la merde, ça vaut rien, ta-ta-ta-ta-ta. Et là, là-dessus, en fait, j'ai développé une manière de l'utiliser, en fait, pour que ça reflète mes goûts à moi. Et ça, c'est important de bien saisir comment est-ce qu'un rating peut être utilisé de façon pertinente à soi-même. Et je pense que la technique que j'ai développée peut s'appliquer dans n'importe quel autre domaine ludique ou même dans n'importe quel autre domaine où est-ce qu'on a une base de données. Là, je pense notamment au film, par exemple.
Au cinéma, ça s'appliquerait très bien. Là.
C'est ça, exactement. C'est pas juste basé sur nécessairement les personnes qui critiquent le jeu, c'est l'espèce de radar, est-ce que ça correspond avec mes goûts ou non. C'est vraiment d'y aller avec une espèce de masse de joueurs qui vont avoir évalué ce jeu-là. Et ma manière d'évaluer, en fait, un jeu selon mon goût à moi, c'est que je tombe sur un jeu et je vais avoir cette page BGG-là qui va me présenter un jeu, par exemple, de 8.5 sur 10. Automatiquement, moi, ce qu'il faut que je me demande, c'est qui est la population cible de cette plateforme-là. Board Game Geek est une plateforme a priori américaine qui va interpeller, en fait, une masse de gens qui vont relativement avoir une expérience court à moyen terme sur l'échelle de jeu. Fait que c'est des joueurs qui ont à peu près 5 à 7 ans d'expérience en général. Et ces joueurs-là vont en correspondre, il va y avoir en fait un frame, un cadre dans lequel ils correspondent. Et la plupart du temps, c'est que BGG va être aussi utilisé comme plateforme d'autopromotion, où est-ce qu'on encourage indirectement les gens à aller partager un jeu sans même qu'il soit sorti ou partager un jeu de façon un peu très, très, très at large pour être capable, par exemple, dans une campagne de sous-financement, débloquer des stretch goals si on partage sur cette page BGG-là, ben, plus de personnes qui le partagent, le plus de stretch goals qu'on va débloquer, etc., etc. Donc, sachant en fait quelle est la population de cette plateforme-là, déjà là, automatiquement, ça peut te donner un bon indicateur. OK, comment est-ce que moi, je me situe par rapport à cette population-là, ce crowd-là que la plateforme a la même? Donc, moi, en tant que tel, quand je regarde BGG et que je vois un jeu qui est coté à 8.8, pour moi, ça sonne déjà une alarme, une sonnette d'alarme, où est-ce que je me dis, attends un petit peu, est-ce que le jeu est évalué à la hausse pour son matériel, pour son esthétique, ou tout simplement pour son style de jeu? Les jeux qui cotent bien sur BGA sont soit des jeux qui ont une esthétique hors du commun, soit des composantes incluant des figurines de plastique qui va avoir une présence sur la table qui est assez imminente, et ou un jeu qui va présenter des mécaniques qui sont à la mode. Ou un thème à la mode. Ce qui est à la mode présentement, ben, c'est beaucoup les jeux de campagne. Ce sont les jeux, en fait, avec une histoire qui est déjà écrite au préalable et qu'on va explorer. Ce sont des jeux aussi qui sont, si on va un peu plus dans la trame euro, ce sont des jeux un peu plus solitaires. Ce sont des jeux qui vont, en fait, aussi avoir une forme de construction d'engins, que ce soit littéralement par le engine building ou le tableau building. Dès qu'on produit quelque chose et qu'on a un retour sur investissement qui est immédiat, que ce soit par la pose d'un item devant soi ou que ce soit par l'activation de cet item-là au fur et à mesure de la partie. Donc là, moi, automatiquement, à partir de ces éléments-là, je peux me dire, si le jeu est à 8.8 sur 10, il y a certains éléments là-dedans qui clochent avec moi personnellement. Mais je ne m'arrête pas là. Parce que ce que je vais faire, c'est que par la suite, je m'en vais dans les commentaires et je regarde les personnes qui l'ont noté soit très très haut ou soit très très bas. Parce que ceux qui se retrouvent en milieu, souvent mon gros enjeu, c'est que ça ne me dit pas exactement qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. Moi, je veux avoir, est-ce que la personne a adoré ce jeu-là ou est-ce que la personne l'a détesté? Comme ça, moi, à partir de là, c'est quand je regarde cet utilisateur-là qui a donné une note, par exemple, de 9 sur 10 ou de 10 sur 10 à ce jeu-là, ben moi, je vais visiter son compte BGG et je m'en vais voir quels sont les jeux que la personne a adorés ou qu'elle a dans son top 10. Pourquoi est-ce que je vais voir ces jeux-là plutôt que ceux qu'elle a nivelés vers le bas? C'est simplement parce que la plupart du temps, les jeux qu'on a nivelés vers le haut vont être des jeux qui vont être plus populaires ou qui vont être plus connus, ce qui va me donner un meilleur indicateur. Parce que la plupart du temps, quand on note un jeu de 3 sur 10, ça va être des jeux qui vont avoir rapidement tombé dans l'oubli. Quand je m'en vais voir par la suite ces jeux-là qui ont noté 10 sur 10, moi, j'ai mes indicateurs de me dire, bon ben si je déteste ces jeux-là, moi, puis que pour moi, ces jeux-là, c'est des 3 sur 10, ben automatiquement, je vais le jeu en tant que tel que je suis en train d'évaluer, c'est peu qu'il ne fonctionne pas avec moi. Puis, je passe la liste vraiment, vraiment au peigne fin. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai vraiment un bel aperçu de, OK, les personnes qui aiment ce jeu-là aiment tel style de jeu ou aiment un titre qui est récurrent. Je vais donner un exemple, Sight, Dune Imperium, Everdell. Automatiquement, puis c'est niaiseux, là. Puis ça a l'air d'être un gros billet, un gros stéréotype de ma part, mais je te dirais que dans 95% du temps, ça a toujours fonctionné pour moi. Du moment qu'un joueur a Sight, Everdell, Dune Imperium, Anachronie et autres jeux que moi, je n'aime pas du tout dans leur top 10, bien, automatiquement, ça me donne un indicateur que moi, je risque d'aimer ce jeu-là. Et là, en fait, plus tu commences à faire ça, plus tu commences à naviguer à travers les différents jeux, et là, soudainement, le rating devient un indicateur pour moi, comme par exemple, quand je vois un jeu qui est à peu près dans la zone du peut-être 5.5 à 6.9, 7 sur 10, là, j'ai un bon indicateur que ce jeu-là peut probablement m'interpeller personnellement. Alors là, je vais commencer à faire mon processus. Je vais regarder les commentaires, je vais regarder ceux qui l'ont évalué de façon positive, ceux qui l'ont évalué de façon négative. Je vais regarder qu'est-ce que ces personnes-là aiment bien. Et suite à ça, ben, je vais aller cogiter un peu, je vais aller lire les règles ou même je vais m'informer un peu. Tu sais, je vais peut-être voir une vidéo si c'est possible. Mais dans tous les cas, du moment que j'ai ces informations-là, ça vient vraiment, vraiment consolider ma réflexion que j'ai par rapport au jeu. Évidemment, il y a d'autres éléments là, qu'on pourrait rajouter, comme par exemple bon, la notion de l'auteur, la notion aussi de l'époque à laquelle il a été édité, parce qu'on s'entend qu'un jeu que des années 90/ début 2000, c'est pas la même optique de design qu'un jeu qui a été fait fin 2010, début 2020. Donc, on peut parler de ces différents éléments-là. Mais soudainement, on se retrouve vraiment avec un. Moi, personnellement, ça m'a vraiment, vraiment aidé à m'y retrouver avec le rating de BGG. Parce qu'une fois que je regarde cette liste-là de jeux qui sont ratés 6.5 sur 10, qui datent à peu près 2000, ça tombe dans mon range de jeux que j'apprécie personnellement. Puis quand on commence à l'appliquer à différentes sources, bien, soudainement, on réalise qu'en effet, ce rating-là, c'est pas juste un rating de personne, puis ça vaut pas de la merde, puis on fait juste regarder sur 10. C'est que ça commence à avoir une signification plus loin que juste le 1 sur 10 ou le 10 sur 10 qui est donné sur cette page-là.
Ouais, ben c'est intéressant. C'est vrai qu'on a peu de temps pour contre-argumenter. Là, fait qu'on ne se lancera pas dans un gros débat. Je donnerai peut-être la parole à Pierre pour voir qu'est-ce que tu penses de tout ça en quelques mots. Là.
Ça va être dur de faire ça en quelques mots.
Mettons en 2 minutes.
Ce que Vincent dit, j'en ai fait une étude scientifique il y a 8 ans. Et puis, ça a donné un article de 20 pages avec tableaux, statistiques et graphiques. Ça a été beaucoup plus objectif que subjectif. J'ai décelé, en fait, à cette époque-là, que sur BoardGameGeek, il y avait effectivement un prototype, un archétype joueur qui allait plus souvent qu'un autre type de joueur sur la base de données pour faire ses évaluations. Et forcément, oui, ça correspond assez bien à ce que Vincent décrivait tout à l'heure. C'est des joueurs qui sont majoritairement natifs des États-Unis. Ils vont aimer... En fait, là, je parle des jeux que j'ai analysés sur Board Game Geek à l'époque, il y a 8 ans, donc en 2016. Ce sont des jeux, effectivement, qui vont avoir une thématique relativement forte, avec une complexité relativement élevée, plus élevée que la moyenne. Donc, ils donnent quand même un bon potentiel de cogiter pendant qu'on joue. Alors que les jeux plus familiaux vont avoir moins la cote parce que ça donne moins de challenge pour le joueur qui va aller faire ses évaluations. Les auteurs aussi qui avaient la cote à cette époque-là n'étaient pas les auteurs de jeux euro, forcément. C'était plutôt des auteurs comme Jason Matthews qui a fait Twilight Struggle. Ou Corey Konitskia qui a fait l'insondable réédition de Battlestar Galactica et qui a fait aussi StarCraft The Board Game qui a été réédité par ensuite sous le thème de Warhammer 40 000 avec je crois ça s'appelait Forbidden je me souviens plus du titre mais bref Konitskia et Matthews et même Chad Jensen qui a fait Dominant Species, le défunt Chad Jensen. Donc, ces auteurs-là étaient les auteurs qui avaient le plus la cote à cette époque-là. Donc, c'est dire finalement que ça vous montre finalement le genre de joueur qui va aller promouvoir les jeux sur BoardGameGeek par rapport à d'autres. Et c'est forcément ça l'idée, c'est que Vincent a tout à fait raison, quand on va sur BoardGameGeek, on a l'impression que c'est quelque chose qui est fait pour monsieur, madame, tout le monde, et qui va finalement convenir à tout le monde, et tout ce que tu as à faire, c'est d'aller voir une note sur un jeu sur BoardGameGeek, alors que tu ne connais même pas c'est qui le type de jeu, de personne qui va donner ces notes-là sur BoardGameGeek. Mais on se fie tout de suite à la facilité, à la rapidité, en fait, on est très, très dans la mouvance de la culture de l'instantanéité. On ne veut pas faire d'efforts, on ne veut pas passer de temps à analyser, on veut la réponse tout crue dans le bec, et on prend BoardGameGeek comme étant un instrument qui donne ça. Et puis, ben là, ben, ça peut créer des mauvaises surprises, parce que c'est là qu'on voit que les notes sur BoardGameGeek ne sont pas nécessairement correspondantes à nos goûts personnels.
Ce qui est quand même assez logique, là, dit de même. Là.
Ben oui, effectivement. Je pense que l'exemple le plus représentatif que je peux donner, c'est Alex Randolph, le père de la profession d'auteur de jeu, qui a fait Ricochet Robot et qui a fait énormément de classiques et qui est idolâtré par des auteurs de jeux qui sont devenus des géants dans l'industrie. Vous regardez les jeux d'Alex Randolph sur BoardGameGeek, quand il y en a qui sont au-dessus de 7, dans leurs notes, on les compte sur une main.
Ouais,
Alex Randolph a créé et signé plus de 100 jeux de son vivant. Alors, allez savoir maintenant pourquoi il est idolâtré par des géants de l'autorat de jeux de société. C'est là qu'on voit la... Ouais.
Eh hey messieurs, je pense que c'est quand même très, très intéressant comme sujet. Malheureusement, là, on a vraiment dépassé, là, même que moi, je commence à faire un peu d'urticaire, là, fait que je vais...
Ben, dis-nous donc, toi, en deux minutes.
Ben, en deux minutes, je suis 100% d'accord avec ce que vous dites là. Après ça, ça s'appelle Board Game Geek, là, t'sais, fait que faut pas non plus s'étonner tant que ça. J'ai jamais vraiment regardé les ratings, je dois vous avouer, sur BoardGameGeek, parce que je les ai jamais vraiment compris, ils n'ont jamais vraiment fait sens pour moi.
Non, c'est ça, en effet.
C'est ça. Par contre, ce que tu dis, Vincent, c'est quelque chose que je faisais assez naturellement, sans vraiment comme l'avoir, tu sais, toi tu as vraiment développé la technique, là, mais tu sais, je le faisais assez régulièrement. Par contre, moi, je me fie beaucoup au top 100, au top 200, au top 300 de BoardGameGeek. Et je trouve que là, sans regarder les notes, sans regarder rien, il y a quelque chose qui émerge quand même dans ça qui montre un certain éventail des jeux de très bonne qualité qui se sont faits dans les 20-25 dernières années. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que c'est un outil indéniable et tout, mais je trouve que le top 100, le top 200, même le top 300, même 500, là, mais bon, le top 100, je le regarde vraiment souvent sur BGG. Et oui, il y a un billet pour les jeux un peu plus gros, mais il y a des jeux plus petits qui ont leur place. Il y a une variété de jeux dans le top 100 de BGG qui existe, que je trouve qui est quand même intéressante.
Oui, et ça là-dessus, j'enlève rien à ça. C'est juste qu'à un moment donné, quand t'as fait le tour de ces jeux-là, ou quand toi, à ton goût, ça commence à être un peu plus un peu moins intéressant. Je vais conclure là-dessus, là, mais un des auditeurs qui nous écoute beaucoup, c'est monsieur Christian Labrèche, qui lui aime énormément les jeux en fait sur l'Empire Edo, le japonais. Excusez-moi, je connais pas beaucoup ça. Et un de ces jeux là, qui est vraiment capoté dernièrement, c'est Sekigahara. Sekigahara n'est pas dans le top 200, 300, et pourtant, c'est un jeu hors du commun là, à deux joueurs. Là. C'est un jeu qui pourrait plaire à beaucoup, beaucoup de personnes, mais que malheureusement, ben, parce qu'il n'est pas nécessairement dans la veine de l'époque, il y a du double guessing, il y a de l'information cachée, il y a des éléments un peu de hasard, mais c'est le fait que c'est chaotique à la limite. Ben, ça va venir un petit peu effriter certaines personnes. Puis là, malheureusement, je vois c'est dans le 197. Mais vous comprenez un peu ce que je veux dire.
Non, mais qu'est-ce que, tu sais, dans le sens que quand on parle aux gens à la maison et tout, votre jeu préféré que vous connaissez pas encore ou un jeu qui va vous faire vraiment triper est possiblement pas dans le top 100 ou 200 ou 300 de BGG. Mm-hmm. Tu sais, ça c'est vrai. Oui. Puis là, quand t'es rendu en mode plus archéologique ou tu veux vraiment aller chercher des nouveaux jeux sans que ce soit des nouveautés, mais des jeux que tu connais pas, effectivement, il faut que tu sortes. Et BGG reste une base de données assez phénoménale pour aller chercher les trucs, mais là, le rating, toi, t'as trouvé une façon quand même vraiment intéressante de... d'utiliser le rating pour aller trouver des jeux que t'aimes sans nécessairement regarder les jeux qui ont la meilleure note, ou en tout cas, en partant de là, mais avec un système... c'est vraiment intéressant, mais c'est pour ça que je voulais quand même qu'on en parle. Là, on a vraiment dépassé de beaucoup, là. C'est pas acceptable. En plus, moi qui est le gars qui veut toujours ramener à l'ordre, mais là, en tout cas, c'est ça. Mais oui, très, très pertinent comme truc. J'apprécie cette façon de chercher, puis je pense que ça peut être assez intéressant, encore une fois, pour les gens on parle à des geeks, là, on s'entend que ma tante n'écoute pas cet épisode de Balado Ludique en ce moment, puis j'ai rien contre les tantes des gens, il y en a qui sont des geeks, il y en a qui ne le sont pas, ma tante n'en est pas une. Donc, ça fait le tour pour ça. Encore une fois, je tiens à préciser que cette saison, il reste seulement deux épisodes à la saison. Ça va se terminer à l'épisode 15. D'ailleurs, c'est le dernier épisode que Vincent va être là parce qu'il s'en va en voyage important à travers l'Europe pour aller éclairer les Européens de sa sagesse éternelle. Fait que vraiment, ça va être très cool. On lui souhaite la meilleure des chances dans cette aventure.
Merci.
Et pour les autres, on se revoit la semaine prochaine pour le 14e épisode de la saison live de Balado Ludique. Ciao tout le monde.
Hey, merci beaucoup. Bon jouage.